Yo, what's up, quoi de neuf podcast? Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, on est rendu à 11e épisode déjà, ça passe vraiment vite. Très heureux de vous présenter aujourd'hui un coach que je trouve vraiment incroyable, puis un être fantastique. Bien sûr, je parle d'Éric Martel. Alors, salut Éric, ça va bien?
Salut, ça va bien, toi aussi, Léric?
Oui, merci. Alors, Il y en a parmi vous qui doivent sûrement le connaître parce qu'il est très connu. Il a été ancien boxeur professionnel, champion canadien. Mais là, aujourd'hui, on va faire le défilé de sa vie. Fait qu'il va pouvoir nous en parler un peu plus tard. Puis juste, tu sais, un petit shout-out avant de commencer. Merci à Mathis Maheu qui nous fait la musique, qui va faire la musique de fin aussi. Alors, merci à toi. Puis c'est ça, on va commencer avec une question qui a l'air un peu rude. Mais t'es né où? T'es né en quelle année? Puis c'est quoi qui faisait tes parents dans la vie?
Excellent. Je suis né à Québec, à l'hôpital Jeffrey-Hell, okay. En 1981, très précisément. Puis le 23 août 1981. Puis c'est ça, mes parents, ma mère était technicienne en radiologie. Aujourd'hui, ça s'appelle technologue en radiologie.
Okay.
Mon père, lui, était encore étudiant à l'époque à l'Université Laval, faisait okay. sa maîtrise. Je pense que c'est en étude de marché ou quelque chose du genre. Donc, mes parents, mon père vient de la Côte d'Ivoire, en Afrique. Okay. Et ma mère est québécoise, vient de Québec, de plus Saint-Malo, là, Saint-Sauveur.
OK. Puis tu habitais dans quel coin quand tu étais jeune?
Moi, je suis né à Québec, mais c'est Charlebourg plus. Ouais. Puis après ça, on a déménagé à Beauport. Alors, quand j'avais l'âge de 11 ans environ... Quand je suis né, on habitait plus 47e rue Ouest, là, okay. dans le bas de Charlebourg. Puis ensuite, on a déménagé à Beauport, dans le haut de Beauport, Sainte-Thérèse. Puis ensuite, moi, je suis parti de chez ma mère, j'avais 20 ans environ. Puis j'ai déménagé plusieurs fois. J'ai habité cinq fois à Limoilou, Le Bourgneuf, okay. puis, etc.
C'est nice. Ouais. C'est quoi l'ambiance de ta famille quand tu étais jeune? C'était-tu agréable ou...
Ouais, ben moi, j'ai une famille un peu... ben du fait que j'étais métissé, c'était spécial un ouais. peu. Mon père est parti, j'étais très jeune. Donc, okay. J'ai été élevé tout seul, beaucoup avec ma mère. Ma mère m'a élevé monoparentale. Donc, j'étais très, très proche d'elle. Mais aussi, ma mère était compréhensive aussi beaucoup du fait que j'avais mon père était absent puis que je cherchais mon identité aussi masculine énormément. Donc, j'ai eu un grand frère quand j'étais jeune pour avoir un modèle masculin. Okay. Mais mes grands-parents aussi ont été très présents dans ma vie. Mon grand-père très présent, ma grand-mère aussi. Donc, mais c'est sûr que c'était pas conventionnel, tu sais, vu que j'avais pas mon père. Puis en plus que j'étais métissé. T'sais, je regardais beaucoup du côté des Noirs américains. J'essayais de m'identifier ouais. beaucoup à, du fait que la couleur de la peau, pour moi, avait une importance. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais quand t'es jeune, c'est différent.
Puis finalement, c'est qui t'a trouvé qui t'a donné le rôle de ton père en tant que tel, là, t'sais, au fil du temps? Là.
C'est une excellente question. Je dirais que c'est la première fois de ma vie que je me fais poser cette question-là. Je pense que c'est beaucoup mon grand-père, au départ, qui m'a montré qu'est-ce qui était vraiment un père de famille, puis ouais. le modèle masculin. Ça a été beaucoup mon grand-père. Je dirais mon grand-frère un peu aussi, c'est ce qui est spécial là-dedans, c'est que c'est Stéphane Turcot qui fait okay. les sports à TVA aujourd'hui, ouais? Ouais, qui était mon grand-frère de 11 ans, aller jusqu'à 18 ans.
Okay.
Mais lui, dans le temps, il n'avait pas d'enfant, c'était plus un ami avec qui je faisais des activités okay. une fois de temps en temps. Mais vraiment, pour un modèle, là, ça a été mes oncles du côté à ma mère, les frères de ma mère. Puis c'est ça. Mais j'ai été chercher plus aussi de par les parents de mes amis beaucoup.
Okay.
De voir comment est-ce que les parents de mes chums étaient les pères de mes chums. Ils m'amenaient, j'avais des chums proches qui m'amenaient avec eux autres peu importe, au chalet ou quoi que
c'est,
ce soit.
C'est fou parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Il y en a souvent, tu sais, j'entends que... Tu sais, je connais un gars qui n'avait pas de mère, puis c'était chez l'ami... Quand il allait souvent chez son chum, tu sais, il y avait la mère de son ami, puis il était tout le temps avec, puis il la considérait comme sa mère.
Exact.
Mais je trouve ça fou quand même. T'as commencé à faire du sport quand?
Crème, le sport m'a habitué très rapidement. J'avais un intérêt pour le sport. Je dirais que dès mon plus jeune âge, mettons à 4-5 ans, je voulais déjà commencer à faire à jouer au hockey ou faire du sport. Donc, je sais que ma maman, mais aussitôt que je disais que je voulais faire un sport, mais ma maman m'inscrivait, puis ça allait de soi. Là. Donc, j'ai commencé à jouer au hockey. Même j'ai commencé à jouer au soccer, je me rappelle que j'étais jeune, j'avais 5 ou 6 ans, mais ça c'est pas un sport qui m'intéressait beaucoup, mais aussi c'était moins populaire à l'époque.
Ouais, c'est sûr.
Donc j'ai commencé à jouer au hockey à 7 ans. Après j'ai fait du patinage de vitesse à 7 ans pour apprendre à patiner. Après ça, j'ai commencé à jouer au hockey à 8 ans.
Okay.
Puis par la suite là, j'ai essayé différents sports j'ai fait un peu de football au secondaire.
Parce que t'as la carrure et t'as la shape d'un gars de football. Là.
Ouais. Sauf que la seule affaire, c'est qu'encore là, moi, en étant né en 1981, le foot était beaucoup moins populaire à Québec. Puis en même temps, on m'a conseillé fortement de peut-être changer d'établissement.
Ah ouais.
Okay. Dans le sens que j'avais pas des notes, j'allais au Petit Noir de Québec. Okay. Mes notes étaient pas super. Puis aussi, donc j'ai changé d'école. Je suis allé à la Seigneurie à Beauport.
Okay.
Donc c'est ça. En changeant d'école, j'avais plus de football. Donc j'ai continué juste à jouer au hockey.
OK. Fait que t'as continué à jouer au hockey.
Ouais.
Pour que t'aies allé au séminaire Saint-François. C'est-à-dire que ta mère, elle avait quand même assez beaucoup d'argent?
Mais c'est ça l'histoire. C'est que ma mère, là, c'est ma mère, j'ai une mère fantastique qui s'est sacrifiée énormément pour moi. Puis aujourd'hui, j'en prends conscience. En étant âgé de 38 ans, je me rends compte de tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour pouvoir me permettre de faire autant du sport que d'aller à l'école privée. Puis tout ça. Puis on a habité dans une maison. Quand je suis déménagé à 11 ans, on a déménagé dans une maison. Donc, ma mère, il a fallu qu'elle travaille très, très fort pour faire pour placer l'argent, puis ici, puis ça. Puis c'est pas une histoire, elle a pas eu d'héritage ou elle a pas eu quelque chose qui fait en sorte que, boum, elle a eu un plus d'argent à cause de ça, aucunement. Donc, c'est vraiment par son travail quotidien, puis en mettant des économies, puis en se privant, qu'elle a été capable de m'envoyer justement à l'école privée.
Puis, t'as été dans une école privée, justement, puis t'as-tu senti... le jugement un peu de l'école privée par rapport aux écoles publiques?
Oui, ben pour être très honnête avec toi, je pense que c'est de là que le fait qu'on me conseille de changer d'école parce que mon comportement et aussi mon attitude, mes notes n'étaient pas bonnes. Mon attitude, souvent, je voyais que d'autres élèves avec qui que j'étais, tu sais, mettons, mon meilleur ami avec qui je me tenais, il était super gentil et tout ça, mais quand même, ses deux parents étaient médecins.
Okay, ouais.
Il m'amenait, mettons, à son chalet, c'était au Mont-Saint-Anne.
Yes,
tu comprends, la maison, son chalet était comme deux fois ma maison.
Fait que tu sentais que t'avais pas le même ambiance.
Ben, c'était pas le même mood. Okay, tu sais, c'est... On dirait que je me sentais moins intégré, moins à ma place un peu, tu sais, à l'école là-bas. Puis tu sais, moi, je me rappelle, tous les gars avaient des Nike de l'année, tu sais, à l'entrée scolaire, quand on appelle ça
la rentrée,
exactement. Tout le monde était habillé en neuf. Moi, j'étais comme, je me rappelle, mon oncle qui donnait des chemises à ma mère, ou tu sais, j'avais linge, tu sais, de seconde main des fois. Puis tu sais, ma mère aimerait pas ça que je dise ça, parce que c'est une personne qui est extrêmement fière, puis tu sais, elle dit, ouais, Eric, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est vrai que c'était pas grave, mais moi, quand j'étais jeune, par rapport au regard des autres, puis tout à l'école, on dirait que ça m'affectait quand même.
Ben, c'est sûr. J'avais entendu quelqu'un qui avait dit une super bonne phrase. C'était genre, tu sais, par rapport au fait qu'il y a souvent du monde qui inscrivent leurs enfants dans le privé parce qu'ils disent, admettons, il va y avoir moins de dealers, il y a moins de marde là-bas. Mais j'avais entendu un gars, il disait, il y a autant de dealers au privé qu'au public, ben oui. Mais c'est juste qu'au privé, c'est plus cher la drogue qu'au public. Là.
C'est très possible. Puis au privé, probablement que les jeunes sont capables de s'en procurer versus au public. Tu sais, moi, je me souviens très bien, puis tu regardes, aujourd'hui, j'ai aucune gêne à dire. J'avais fumé du hash la première fois de ma vie, puis c'était, admettons, justement, au petit mineur dans le cours en arrière avec des gars qui, tu sais, qu'eux autres, qui venaient du lac Beauport, les parents de l'argent, puis ils avaient été capables d'en avoir, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis que des fois, c'est faux de penser, puis j'étais à l'école privée. Puis quand je suis allé au public, on dirait que je me tenais aucunement avec ce genre de personnes-là. Je me tenais plus avec des sportifs et tout ça.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est, je pense que les jeunes, s'ils ont à faire quelque chose ou s'ils ont à aller du mauvais côté, ils vont y aller, peu importe de l'école. Manière,
ouais.
Exact, ils vont trouver un moyen pareil. Tu sais, c'est pas une question d'école ou de milieu nécessairement.
Mm-hmm. T'as commencé quand à faire de la boxe? C'est quand que t'as commencé à faire de la boxe?
Ben, ça a été beaucoup dans mon, justement, dans ma recherche identitaire, dans mon, tu sais, mon adolescence, de vouloir avoir une reconnaissance. Puis je te dirais aussi d'avoir confiance en moi, tu sais, aller chercher de la confiance en moi. Donc, j'ai commencé à boxer à l'âge de 15-16 ans. Puis moi, vu que j'étais un petit gars extrêmement sportif, mais je trouvais que ma mère, oui, m'inscrivait au hockey, mais je jouais jamais, tu sais, dans les catégories que j'aurais voulu jouer. Ouais. Je jouais pas dans le 2A, je jouais pas encore moins dans le 3A, mais je veux dire, je jouais pas dans les hauts niveaux, dans le niveau compétition, c'était plus dans le niveau récréatif.
Fait que tu cherchais le sport où est-ce que tu allais percer, où est-ce que tu allais devenir.
Exactement. Puis si j'avais joué au football, probablement que ça aurait été dans ça, mais là, finalement, avec le... En tout cas, aujourd'hui, c'est avec du recul que je suis capable de dire ça, mais quand même, dans le temps, j'ai vu que la boxe, justement, il y a beaucoup de Noirs américains. Je voyais Mike Tyson.
Ouais.
J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des Noirs aussi. Donc, j'ai vu Mohamed Ali, qui moi, je trouvais extrêmement impressionnant comme personnage. Donc, j'ai décidé d'aller dans ce milieu-là, dans la boxe, d'essayer. Je suis allé essayer ça en cachette parce que ma mère ne voulait rien savoir que je puisse faire de la boxe. C'est drôle, pareil, parce que aujourd'hui, c'était ma fan numéro un, puis quand je boxais, elle était là à tous mes combats, puis elle prenait ça à cœur. Sauf que quand même, quand j'ai commencé, c'est elle qui voulait rien savoir, c'est que j'ai fait ça un peu en cachette. Je prenais l'autobus, je disais que j'allais m'entraîner au gym, faire des poids, mais finalement, puis que je payais pour aller faire des poids, mais finalement, je payais pour aller faire de la boxe.
OK. Puis t'as commencé avec le centre de boxe, c'est quand...
J'ai commencé avec Fernand Marcotte, qui était dans le coin de Le Bourgneuf. Dans le fond, c'était avant, il y avait un IKEA à Québec, puis c'était l'ancien IKEA dans la bâtisse.
Okay.
Fait que j'allais là, puis c'est ça, j'ai commencé ça. J'étais tout le temps là le soir quand je pouvais y aller. Je prenais la 60, en tout cas, je sais pas si elle existe encore, ce numéro d'autobus-là, mais la 60 qui passait dans ce coin-là, puis j'arrêtais. Je faisais le training jusqu'à peut-être 7-8 heures, facile 8 heures et demie. Puis ça, je partais, puis je retournais chez nous.
Puis c'est quand t'as eu la piqûre de la boxe, t'as fait genre, c'est vraiment ça que je veux faire.
Ben, je te dirais que la première fois, quand je suis rentré dans un gym de boxe, j'avais la piqûre.
Okay, ouais.
Mais je pensais pas faire de combat. C'est que j'aimais ça m'entraîner puis essayer de me mettre en forme. Parce que je vais t'avouer, la première fois que je suis arrivé dans un gym de boxe, faire un round de corde, pour moi, c'était un exploit.
Round de corde, là, c'est long, puis ça fait mal. 3 minutes,
j'étais crème, j'ai fait un round, tu sais, tranquillement, pas vite. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, le gars qui m'entraînait, c'était un gars qui connaissait un petit peu la boxe comme ça, il m'a dit, tu sais, si à un moment donné, tu veux faire des combats, il faut que tu sois capable de faire au moins un round, tu sais, de corde. Fait que là, tranquillement, je me suis entraîné plus, puis je passais beaucoup de temps au gym. Puis j'ai changé de gym, puis à l'âge de 18 ans, là, j'avais ma majorité. Donc, j'ai dit à ma mère, là, OK, à ce soir que je suis rendu un adulte, sur papier, je vais faire mon premier combat. Puis j'ai fait un premier combat qui a duré 45 secondes. Fait que, puis contre un gars de Shawinigan...
T'as gagné?
Oui, gagné
45
secondes. Le gars, je l'ai dit, a tombé comme un arbre. Fait que là c'est, à partir de ce moment-là, là, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis là, j'ai dit, je vais en faire un deuxième, je vais en faire un troisième.
Okay.
Puis là, ça a continué. J'ai fait, après ça, les compétitions provinciales qui s'appellent les Gants d'argent. Je me souviens plus en quelle année, mais en tout cas, peut-être à 20 ans, à peu près 21 ans maximum. Puis là, ça s'est avéré super bien, ça a super bien été. Donc, j'ai gagné cette compétition-là. Ça m'a permis d'aller aux Gants dorés. J'ai gagné la même année les Gants dorés aussi, avec quasiment juste 10 combats à peine. Puis j'ai gagné les Gants dorés, puis après ça, j'ai continué à être tout le temps champion, au moins du Québec. Après ça, en 2006, j'ai gagné championnat canadien. Je suis tombé sur l'équipe nationale. Donc, ça m'a amené à voyager énormément. Là, j'espère ne pas oublier de pays où je me suis battu, mais je suis allé me battre au Venezuela, au Niger, en Afrique, J'étais allé en Finlande, compétition en Finlande. J'étais allé en Angleterre. Je suis allé aussi à Kansas City, aux États-Unis, faire la compétition ringside. Après ça, je suis allé partout au Canada. J'ai fait le Canada d'est en ouest à me battre.
Y a-tu des pays où est-ce que tu as eu des moments plus difficiles, des anecdotes loufoques?
C'est sûr qu'en Afrique, c'était spécial. Au Niger, en Afrique, c'est très, très pauvre. D'ailleurs, que j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait la compétition là-bas. C'est l'enfer. On restait dans des maisons qui n'étaient pas terminées de construire. C'est spécial. Mais tu sais, c'était quand même nice, parce qu'on était comme une famille, tout ça, genre, tu sais, tous les gars de l'équipe. Puis on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Mais en même temps, on trouvait ça spécial que tu sais le site n'était pas fini de construire. Puis il disait que toutes les maisons qu'il avait construites, tout ça, ça allait servir à la population après. Okay. Je pense que c'est vrai. Sauf que quand même, ça a été le fun que les
maisons
soient finies, les échéanciers soient faits. Puis ensuite, je me rappelle, en compétition en Finlande, je me rends en finale de la compétition. Puis je me casse la main. Je me casse la main droite. La main gauche, excuse-moi, durant le combat. Puis là, finalement, après le combat, moi, il n'y a personne qui parlait français dans sur l'équipe. J'étais le seul francophone sur l'équipe nationale. Fait que là, j'essaie d'expliquer. Ben, je n'étais pas super bilingue, mais je parlais quand même bien, pas pire, je me débrouillais. Mais là, j'explique que moi, j'ai mal terrible. Là, ils voient mon pouce, ils disent « Oh, il faut aller à l'hôpital. » Mais en Finlande, ça ne parle pas plus. Fait que là, il a fallu se faire expliquer. Puis là, ils m'ont amené à l'hôpital. Là, ils voulaient m'opérer. Je disais, je me fais pas opérer ici. Fait qu'il a fallu que je me fasse faire un plâtre temporaire. Je suis revenu au Canada. Je me suis fait opérer ici à Québec, à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Puis là, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est une affaire plate. Mais tu sais, en même temps, ça m'a permis de voir le pays de la Finlande aller à l'hôpital là-bas. Puis tout ça.
Ouais.
Puis, mais tu sais, j'ai vécu beaucoup de choses, tu sais, en compétition, puis justement comme en Angleterre aussi, je suis sorti en Angleterre, des soirées là, une soirée, je me rappelle, après un combat de la compétition, on était sortis, on a fêté pas mal, puis tu sais, c'était nice de voir ça, tu sais, de voir les différentes mentalités, tu sais, les bars aussi, puis tu sais, je me rappelle que le monde, après la police, eux autres se promenaient à cheval pour faire évacuer les gens,
c'est quand même nice.
dans les rues, puis tout, là. Ouais, c'est vraiment nice.
Puis c'est... Si on vient un peu vers l'arrière, là, ta mère, elle a réagi comment quand tu lui as expliqué que tu faisais de la boxe et que tu allais faire un premier combat?
Ben, ma mère, tu sais, veut pas, c'est une maman. Ça fait qu'elle, ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour son fils.
Ouais.
Fait que j'ai dit, regarde, man, je vais faire un combat, puis je veux dire, on va voir comment ça va se passer, viens voir, puis c'est sécuritaire, tout ça. Puis elle était déjà venue de toute façon au gym où je m'entraînais. Donc, elle est venue au combat, puis elle a vu comme, tu sais, tout le monde avec qui j'allais à l'école, là, j'étais rendu au cégep à 18 ans. Donc, tout le monde du cégep était venu, tout le monde, mes chums du secondaire aussi, mes autres chums, ma gang de chums. Donc, quand j'avais envoyé le go tapis, tout le monde criait, tout le monde était content, ma mère aussi, tu sais, puis elle a vu comment est-ce que, tu sais, après ça, j'étais heureux, puis j'étais positif par rapport à ça, puis donc, puis ça m'avait aussi donné une discipline de vie.
Ouais.
Tu sais, pendant tout ce temps-là que je focusais sur le combat, mais je mangeais bien, je faisais attention. C'est que, tu sais, ma mère, elle a vu juste, je pense, du positif à ce moment-là, puis elle m'a encouragé, là. Elle s'est devenue ma fan numéro un, comme je te disais.
C'est bon, ça. Puis sinon, après ça, là, tu sais, quand tu as fait plus de combats, ça a été lequel ton plus gros combat, ton premier gros combat, là?
Premier gros combat, c'est sûr que quand j'ai fait les combats pour les championnats canadiens, tu sais, puis même les compétitions, des fois, même les gants dorés, tout ça, c'est des gros combats. Puis ma mère était toujours là. Mais ça s'est avéré à quand même toujours bien aller. Mais c'est plus au niveau professionnel. Quand je suis tombé professionnel, que là, c'est les gants sont plus petits, ça cogne, il y a plus de rondes. Là, ma mère a commencé à avoir plus de difficultés à assister à mes combats. Puis ensuite, en plus de ça, là, c'est sûr qu'il est arrivé, j'étais allé au tapis quelques fois. Donc là, je sais que ma mère, à la fin, elle était comme plus capable d'assister. Là. Elle disait, là, ça s'en vient trop dur. Puis ma mère aussi a vieilli. C'est 20 ans de temps là, que j'ai commencé, qu'on peut échelonner le temps que j'ai commencé à boxer. Donc, pour elle, ça s'en venait dur. Là. À la fin, elle était contente. Quand j'ai dit que c'était fini, elle était bien contente.
OK, c'est bon. Puis, t'as-tu fait des gros stades, des gros arénas quand
ouais,
même.
Ben oui, je me suis battu. Ben, ça dépend qui, là, je me suis pas pour qui, mais moi, je trouve que c'est gros. Je me suis battu au Centre Bell. Mon ouais. premier combat que j'ai fait professionnel en 2008, c'était au Centre Bell. En sous-carte de Lucien Bouté.
Okay.
Il y avait 16 000 personnes quand même. Puis ça passait dans toutes les cages au sport, partout au Québec. Donc, c'était gros. Là, mais c'est sûr que les réseaux sociaux étaient moins importants qu'aujourd'hui.
Ouais.
Donc, tu sais, aujourd'hui, je pense que j'aurais une meilleure visibilité encore, mais c'est pas grave. C'est que dans ce temps-là, quand même, dans toutes les cages au sport, un peu partout, même ceux qui commandaient le combat via, c'est quoi, c'est Lico ou quelque chose, ouais. ils pouvaient avoir, là, pay-per-view. Là. Donc, ils pouvaient avoir le combat. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait le Centre Vidéotron, j'ai fait le Colisée avant ça, okay. Colisée de Québec avant qu'il ferme. Puis j'ai fait aussi en Angleterre, j'ai fait un gros aréna que je me souviens pas le nom du tout. C'était à Sheffield en Angleterre, okay. Il y a beaucoup de monde. Puis c'est ça, donc c'était diffusé partout aussi sur le réseau Box Nation.
Okay.
Donc c'était au niveau international, là, c'était super bon.
C'est quand que t'as vu que t'avais une certaine notoriété puis que t'avais le monde te respectait un peu pour ce que t'étais devenu comme boxeur, là. T'étais devenu un grand boxeur. Fait ouais. C'est quand que t'as vu que t'avais une certaine notoriété puis t'as vu que enfin j'ai réussi à percer puis à être au maximum du talent que je peux avoir.
Je te dirais que ça s'est fait vraiment petit à petit. Là.
Mm-hmm.
C'est étape par étape. Là. Dans le fond, c'est comme quand tu dis que ta maison est construite, c'est comme brique par brique, là, comme ouais. on dit. Ça fait que moi, personnellement, ça a été vraiment au fil des années. Je me suis jamais dit « Ah, là, enfin, je suis quelqu'un.
Okay. »
Tu sais, j'ai gagné une compétition. Je disais « Ah, yeah, je suis content, je suis fier de moi. » Mais tu sais, je voyais toujours plus loin. Après ça, je disais « OK, là, je veux gagner championnat provincial. Après ça, là, je veux gagner championnat national. Là, si je gagne championnat national, ah, là, je veux gagner des compétitions au niveau international. » Fait que tu sais, pour moi, là, aller chercher la notoriété, c'était plus, tu sais, c'était... Puis j'ai tout le temps gardé les deux pieds sur terre quand même parce que je travaillais aussi en même temps.
Okay.
Tu sais, pour moi, je gagnais pas ma vie. J'étais pas millionnaire, tu sais, j'étais pas... Fait que tu sais, on dirait que ça, le fait de m'entraîner mais de travailler aussi en même temps puis de voir le vrai monde, là, si on peut dire, là,
ouais.
tu sais, de pas être dans le famous, là, c'est que ça m'a beaucoup aidé pour rester... Okay.
Puis, t'as arrêté les études quand ou t'as-tu continué aussi tes études?
Je n'ai jamais arrêté. Non, c'est pas vrai. Non, dans le fond, j'ai arrêté les études quand j'ai été engagé comme agent correctionnel à prison de Québec à Orsainville à l'âge de 27 ans.
OK, fait que t'avais fait l'université?
Oui, je suis rentré à l'université. Je suis rentré à l'université Laval en sociologie.
Okay.
J'ai jamais compris le... Ben oui, non, c'est pas vrai. J'ai compris le pourquoi que je voulais aller en sociologie, c'est parce que j'avais fait sciences humaines psychosociaux.
Okay.
Puis moi, je trouvais que c'était une suite logique. Puis en même temps, que j'ai tout le temps été un gars pareil, comme oui, OK, boxeur, mais en même temps, un gars qui s'intéressait au comportement humain, à la société. Tu sais, quand même, essayer de comprendre pourquoi le racisme,
ouais.
pourquoi certaines personnes ont tel genre d'attitude, ça, c'est la société. Donc, je suis allé en sociologie. Mais là, Karl Marx, lui, on dirait que, tu sais, il m'a comme...
T'as turn off un peu.
Un petit peu, j'ai eu de la misère à le saisir. C'est que j'ai décidé de lâcher ça, je suis rentré en communication.
Okay.
Puis communication, là, j'ai fait deux sessions. Puis dans le fond, après ma deuxième session, je dis ouais, mais là, je boxais, je pense que j'étais passé pro, ou en tout cas, je m'en allais passer professionnel. J'ai dit, Caroline, c'est vague, puis je peux-tu vraiment être capable de, tu sais... de me placer. Et puis après, probablement que oui, j'aurais pu, mais tu sais, c'est juste que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. En même temps que je boxais, ça fait que j'ai préféré focusser au niveau de la boxe quelques temps pour ensuite me dire « OK, il faut que je retourne à l'école encore. » Je sais que là, j'étais allé à Mérissy okay. en éducation spécialisée.
Okay.
Puis en faisant mon cours d'éducateur spécialisé, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais appliquer avec les études que j'avais puis le background. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses aussi. Même pendant que je boxais, je travaillais comme portier d'un bar. Je travaillais à l'hôpital Saint-François d'Assise,
okay.
préposé à l'entretien ménager, préposé aux dossiers médicaux, tout ça. En tout cas, ça fait plein de petits jobs. Je travaillais dans sport expert, foot locker, en tout cas, plein de choses. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, je pourrais appliquer pour être agent correctionnel à la prison de Québec. J'ai appliqué, j'ai été engagé. Donc, en étant engagé, je me suis dit, OK, mais là, je suis rendu avec une job de 60 000 de base par année. Ouais. Même plus, tu sais, ça peut monter plus avec les primes, puis plus que ton ancienneté. Fait que j'ai essayé ça, mais malheureusement, ça n'a pas été pour moi. Donc, j'étais plus... premièrement, de par mon adolescence, puis aussi du milieu de la boxe, on dirait que des fois, je rentrais dans des wings, une wing, ouais. Dans le fond, dans des secteurs, puis je connaissais plusieurs gars. Fait que...
Mais ça devait être déstabilisant. C'est quoi qui se passait là, quand tu voyais un gars que tu connaissais? Là?
Je disais, des fois, je faisais un petit signe de tête là, pour te montrer que j'avais reconnu. Puis par respect, si on peut dire, puis dépendamment, c'est pourquoi que je... Dans quel secteur qu'il était, si ouais. C'était un gars que je connaissais, si ça avait été, mettons, un pédophile, c'est sûr que j'aurais pas dit salut, mais ouais. Si c'était un gars qui était là pour des délits ou voies de fait ou des trucs du genre, tu sais, je pouvais y faire signe, puis je pouvais même aller jusqu'à y parler un peu, là. Tu sais, mais moi, c'est ça, je trouvais dur parce que moi, j'aime beaucoup le monde, tu sais, j'aime ouais. Le monde. Tu sais, j'aime ça parler, on s'est connus un peu, tu ouais. Vois, je te parle, tu sais, je m'intéresse aux gens, puis j'aime ça, tu sais... être en relation avec les gens. Mm-hmm. Fait que, tu sais, d'arriver comme gardien de prison,
c'est quand même
ouais. Assez difficile d'être en relation, tu sais, avec ouais. Quelqu'un. Tu peux lui dire, tu sais, tu peux... Il y en a qui vont être comme des agents, qui vont être comme agents de probation ou des trucs, tu sais, qui vont pouvoir parler avec les détenus puis essayer de les aider. Mais moi, comme étant agent, comme en rentrant, c'est vraiment pas ça. C'est, tu faisais la sortie de cours... Tu donnais à manger, si ça, mais c'était pas... moins que t'avais de contact avec les détenus, mieux c'était.
Okay, ouais.
Moi, je trouvais ça tough.
Puis, t'as-tu une histoire qui a fait « OK, non, là, c'est trop, puis je dois partir. »
Ben, crème, je te dirais qu'il y en a eu pas mal. On dirait que aussi... Moi, je pense que j'ai vécu comme un genre de choc post-traumatique en travaillant là-bas.
Okay.
Parce qu'il y a plusieurs... mettons, je travaillais là 2 ans.
Okay.
Puis on dirait que j'ai comme... C'est tellement vague dans ma tête, cette job-là. Là.
Ouais.
On dirait que je me souviens plus vraiment de plein de choses que je me souviens plus puis je comprends pas pourquoi. Puis souvent, je pense que c'est justement en lien avec ça. C'est comme des rêves. C'est comme si c'était un rêve que j'avais fait, que j'ai travaillé là. Mais pourtant, je sais que j'ai vraiment mm-hmm. travaillé là.
Ouais.
Mais c'est que, dans le fond, je voyais un gars que je connaissais qui était au trou. Là, tu sais, il fallait que je lui donne son repas. Puis tout ça, moi, ça me traumatisait, tu sais, de voir... Ouais. Ou des fois, des gars qui sont tombés en crise, tu sais, de voir que c'est comme vraiment comme des animaux. Je te dis, c'est plate à dire, mais tu sais, comme... Le gars est en crise, là, OK, on le ramasse d'un type, puis c'est des... Je veux dire, les cellules, c'est comme des cages.
Ouais.
C'est fou, là. Ça... Puis, tu sais, des gars, des fois, qui sont intoxiqués, qui rentrent, qui se prennent n'importe quoi comme substance ou quoi en dedans, puis qui rentrent des affaires par leur derrière, là, tu sais, comme ils
vont... On a vu?
Oh, ouais, il y a des gars, là, tu sais, ils appellent ça des POC, là, qui se rentraient, tu sais, dans le fond, c'est... dans le fond, qu'ils vont se... Je cherche le terme, là, ça va m'en revenir, là, c'est sûr, là, mais, tu sais, dans le fond, qu'ils s'insèrent ça dans le derrière, ils se pluguaient.
Okay.
Avec plein d'affaires. Puis tu peux pas t'imaginer, là, c'est un sac à surprise. Là, je sais pas, des
En tout cas.
Fait que non, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment comme un peu saisi. Ça m'a traumatisé. Je suis comme rentré là sans penser, pour vrai.
Ouais.
C'est juste en me disant, ah, ben là, je vais avoir une job à vie. Tu sais, je vais avoir de quoi si la boxe, ça marche pas ou quoi. Mais je vais avoir de quoi, j'ai un backup, tu sais.
Ouais.
Mais le backup, ça s'est retrouvé à être quelque chose qui était pas fait pour moi du tout.
OK, puis après... Tu sais, quand là, t'as fait, c'est trop. Tu sais quoi que t'as fait après? Est-ce que t'es allé dans quel.
Ben, moi, là je boxais. Puis en même temps, je suis rentré au centre jeunesse. Maintenant, encore, c'est ma job aujourd'hui. Je suis agent d'intervention en centre jeunesse. Je travaille pour la DPJ. Ça va faire 11 ans que je travaille là auprès des jeunes. Je travaille des fois temps partiel. En ce moment, je travaille juste temps partiel, une fin de semaine sur deux, parce que je donne des cours de boxe aussi au Empire, tout ça. Mais. Avant ça, j'ai travaillé là-bas souvent temps plein. Donc, c'est ça, c'est un agent d'intervention. Là, ça se trouve être en lien avec les éducateurs dans les unités. Puis tout ça, je travaille plus au gouvernail ou puis à l'escale. Donc, c'est ça.
OK, puis c'est quoi, entre autres, là, ta job? Là? Fait que t'es plus en lien avec les jeunes, puis c'est ouais. Tes aides à passer au travers ça?
Ouais, ben je les aide. Moi, c'est sûr que je suis un gars qui essaie de m'impliquer beaucoup aussi. Puis j'aime les jeunes, ouais. J'aime les gens, mais j'aime les jeunes aussi. Puis je trouve que c'est notre futur, puis c'est super important de justement leur accorder du temps, puis de leur montrer un peu de notre chemin. Tu sais, comme moi, mon parcours, les erreurs que j'ai pu faire, Mais Colin, essayer de prévenir les jeunes de ne pas faire les mêmes erreurs des fois que j'ai pu faire, puis de croire surtout en eux. Puis tu sais, comme moi, je te félicite, puis je te l'ai dit, puis c'est une des raisons pourquoi je suis ici en ce moment. C'est parce que je trouve ça vraiment nice de te voir aller, puis tu sais, de par ta personnalité, puis aussi en même temps, genre, tu sais, comme un podcast, tout ça, tu sais, c'est... Je trouve que tu es avant-gardiste sur les gens autour, ben, pas nécessairement autour de toi, mais
les
jeunes, non, mais c'est bon, puis c'est un signe d'intelligence. Fait que je trouve ça cool, puis je trouve ça le fun. Puis en même temps, les jeunes au centre jeunesse, des fois, il y en a qui vivent des plus grandes difficultés, mais c'est essayer de les booster aussi, pour leur donner justement la confiance pour leur manquer, ou des fois, le petit coup de pied dans le derrière pour qu'ils avancent un petit peu
plus. T'as-tu vécu des situations qui étaient... difficile pour toi, c'était plus nécessairement pour elle que c'était rendu tough, c'était pour la personne, mais pour toi aussi, t'étais comme là, ça va trop loin, puis c'est difficile.
Ben moi, j'ai été bénévole pour un jeune de 10-12 ans à aller jusqu'à ses 18 ans. Okay. Puis je me suis vraiment beaucoup impliqué avec cette personne-là, puis souvent, il m'a déçu, c'est plate, mais c'est ça, il m'a déçu. Puis des fois aussi, justement, c'était aller un peu trop loin dans ses affaires parce que là, j'étais en train de me mettre à dos. Tu sais, en voulant l'aider, je me suis comme mis à dos des collègues de travail qui, eux autres, disaient « Là, t'exagères, il n'y a plus rien à faire avec ce jeune-là. » Puis tout ça. Mais tu sais, c'est comme moi, il y a du monde qui rentre là pour leur chèque de pain, puis il y a d'autres mondes qui sont là pour vraiment, pour la cause. Ça dépend toujours. C'est que moi, j'étais là pour la cause, mais c'est vrai que des fois, je pense que il y a une limite à vouloir s'impliquer puis à vouloir donner. Fait que c'est de doser ça. Aujourd'hui, avec l'expérience, je suis quand même plus capable de savoir jusqu'où aller puis à un moment donné dire « OK, là, c'est assez. »
OK. Puis en ce moment, t'es rendu aussi coach. Tu as ton background d'ancien boxeur professionnel. Est-ce que tu veux recoacher des professionnels? Tu veux-tu coacher des professionnels pour les mener au plus haut ou tu fais juste coacher la boxe pour la boxe?
Ben, tu sais, dans le fond, moi, je veux coacher des jeunes puis au niveau amateur et au niveau professionnel, c'est certain. Sauf que, aussi, ce que je veux, c'est être en quelque sorte, de par la boxe, devenir un genre de coach de vie.
Okay.
Tu comprends? C'est que moi, je vais coacher des jeunes qui veulent monter dans ce sport-là, qui veulent aller le plus loin possible, puis devenir éventuellement justement des gens de pas Mohamed Ali, mais des Floyd Mayweather ou des grandes vedettes de la boxe au Québec ou même mondialement. Sauf que ça veut pas dire que ça va arriver, mais aussi je veux que monsieur, madame, tout le monde qui veut se mettre en forme, puis que des fois qu'il manque de motivation ou que des fois c'est plus... Je sais pas, ils sont tannés d'aller dans un gym pour juste lever des poids ou courir sur un tapis sur place, mais qu'ils puissent avoir un coach comme moi qui les motive puis que ça leur donne le goût justement de s'entraîner puis de bouger le plus possible. Fait que tu sais, j'essaie de varier puis en même temps, c'est ce qui me fait vivre pour l'instant, c'est beaucoup le coaching personal coaching. Là. Donc c'est ça. Mais j'essaie de jouer là-dedans, puis tu sais, de trouver ma place, puis ma voix le mieux possible. Là.
OK. Puis, dans le fond, là, ça, c'est deux de tes jobs, mais t'en as une troisième aussi qui est de conférencier. Tu donnes des conférences dans plusieurs écoles, à plusieurs personnes.
Ouais.
C'est quoi, quelle conférence, en fait, tu fais globalement?
Ben, pour l'instant, je dirais, il y a mon ami Mariam Ndiaye qui a travaillé beaucoup à la télévision dans le temps à Musique Plus, qui a travaillé pour TVA, fait la météo aussi à TVA, a travaillé aussi. Bon, en tout cas, là, je veux pas qu'elle soit fâchée si elle entend ça, parce que genre, elle est dans la musique, parce que je veux pas l'oublier, parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses, mais elle, c'est elle qui a parti le concept de conférence Les Nouveaux Modèles, pour donner un peu donner espoir, je pourrais dire ça comme ça, donner espoir à des jeunes ou issus de minorités, de minorités visibles ou de différences culturelles.
Ouais.
Justement, tu sais, de voir qu'il y a des modèles au Québec aussi qui ont réussi. Donc, comme moi, vu que mon père vient de la Côte d'Ivoire, elle, c'est métissée, Sénégal, ou d'autres aussi. Je sais qu'il y a un de mes amis, Sao, que lui, c'est vietnamien et tout ça. Donc, elle fait des conférences avec des modèles issus de différentes communautés. Puis, moi aussi, je fais des conférences beaucoup pour partager mon parcours, partager ma vie justement de qu'est-ce que j'ai vécu au niveau de la boxe, au niveau amateur, ouais, professionnel, que c'est devenu un jour presque un chèque de paye, puis que justement ça m'a amené à vivre plein d'expériences. Puis que même, garde, aujourd'hui, j'étais avec toi à cause de ça. Parce, ouais, que c'est que c'est ça. Si j'avais juste travaillé à l'hôpital ou fait juste une job, on serait pas assis ensemble en train d'en jaser. Fait que pour moi, c'est ça. J'explique aux jeunes comment est-ce que des fois, une passion peut devenir un véhicule pour vous amener à vivre plein d'expériences puis d'affaires qui vont vous sortir de juste du petit quotidien ou de la petite vie du 8 à 4 à écouter TVA le soir. Là.
Ouais. Puis je sais que ben, tu sais, ça a passé sur les réseaux sociaux dernièrement. Ouais. Tu veux devenir analyste à TVA Sport ou RDS.
Exact.
Puis c'est quoi qui t'a amené à faire ça? C'est quoi
ben,
qui...
Parce que moi, en fait, j'ai étudié en communication.
Ouais.
Puis j'ai toujours voulu, ben, tu vois un peu là aussi, parce que tu m'as sur Facebook, j'aime ça faire des farces, t'sais, j'aime ça rire, ouais, j'aime ça. Moi, à un moment donné, je me demandais si j'allais pas aller à l'école d'humour. tu sais, je pense que j'ai un parler, tu sais, je suis capable de m'exprimer, de mettre mes idées, justement, de pouvoir bien... m'exprimer, puis c'est ça, là, ça fait que je me suis dit que pour être analyste pour la boxe, ça pourrait être une belle avenue ou ben, un beau sideline. Pas nécessairement gagner ma vie avec ça, ouais, parce qu'il n'y a pas assez de combats, puis tu sais, c'est pas à temps plein. Mais une fois de temps en temps, puis on m'avait déjà dit que oui, tu sais, il pourrait avoir une ouverture. Mais on sait comment est-ce que c'est de nos jours. Tu sais, des fois, quelqu'un va te dire quelque chose, « Ah oui, mais oui, ça va se faire » ou quelque chose. Puis finalement, tu n'en entends plus jamais parler. Fait que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes maintenant que j'étais à la retraite officielle. Puis j'ai dit, ça faisait déjà là, un bout de temps, là, pour vrai, ça devait faire au moins un an facile, si c'est pas plus, que je pensais à quelque chose, à faire quelque chose via mon Facebook. Mais j'attendais le bon moment aussi, tu sais, que moi, je me sente bien puis que je me sente prêt à affronter si jamais ça arrivait. Puis c'est ça, j'ai pensé à faire un petit vidéo pour dire que les gens partagent, puis en même temps que j'allais faire un push-up par partage.
T'es rendu où, là, dans le push-up, là?
Là, il faudrait que je regarde, mais tantôt, quand j'ai regardé, j'étais à 2450, là.
Puis t'en as fait combien à date?
Ouais, un petit peu plus que 800. Fait que, il m'en reste pas mal à faire jusqu'à dimanche, mais on va trouver une solution, c'est sûr.
Ben oui, mais t'sais, au pire, tu t'invites une classe
tes
kids, tu fais
genre split. C'est ça.
Mais c'est nice d'en apprendre. Puis je sais aussi qu'on a eu une conversation sur la politique. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi.
Oui, mais oui, Colin, c'est bon, c'est un bon point. Je repensais pas à ça, mais oui. La politique, pour vrai, au départ, quand j'étais plus jeune, tu sais, comme un. T'sais, malgré que j'étais encore là impressionné de voir que toi, c'est quelque chose qui t'intéressait, mais la politique, quand j'étais plus jeune, je regardais ça de loin, mais en vieillissant, on dirait que bon, l'impact que tu peux avoir sur ta communauté, tout ça, je me suis fait approcher par le Parti libéral pour me présenter aux dernières élections dans Portneuf pour le Parti libéral. Mais finalement, j'ai refusé parce que je me sentais pas assez fort. En tout cas, du fait que j'avais pris ma retraite de la boxe et tout ça, puis je me sentais pas assez fort mentalement pour faire le step.
C'est rough. Ouais, c'est une carrière de
c'est
politicien.
C'est ça,
puis là...
d'aller le chercher dans ton passé. Ah, regardez, il a fait ça, yes. Bon, ça me tentait pas. Puis maintenant, tranquillement, je commence à penser plus à qu'est-ce que je pourrais faire, justement, comme au niveau de la politique. Puis ça s'est avéré que là, j'ai Québec 21 qui m'ont approché aussi pour la politique municipale. J'ai aucun choix de fait. En fait, je vais juste écouter qu'est-ce qu'ils vont me dire. Je vais étudier chaque parti et tout ça. Mais je pense que je commencerai au niveau municipal, tranquillement, juste pour me familiariser un peu avec ce milieu-là. Puis éventuellement, peut-être aller au provincial ou au fédéral. Mais fédéral, pour moi, c'est plus un milieu où, vu que tu vas souvent à l'extérieur, à Ottawa, tout ça, c'est comme plus vers la.
Mais j'ai l'impression aussi que le fédéral, tu as moins d'impact par rapport aux gens de ta communauté.
Exactement.
J'ai l'impression que plus t'es proche dans les plus petits endroits, plus tu as d'impact. Admettons, municipal, tu as un impact direct avec les citoyens. Après ça, t'as provincial. Provincial, je trouve que t'as quand même un bon impact par rapport à la société. Où est-ce que le Parlement de Québec, où est-ce qu'ils ont un quand même un bon impact au Québec. Puis sinon, je trouve fédéral, c'est vraiment pas beaucoup d'impact.
C'est clair. Mais c'est ça. C'est que moi, je me dis, il n'y a rien qui m'empêcherait peut-être un jour, sky's the limit, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être le premier maire black de Québec? Ouais.
Alors, tu vas détrôner Régis Labeaume, là.
Ouais, mais là, en tout cas, on verra qu'est-ce qui va arriver pour lui les prochaines élections. Mais c'est sûr que ce ne sera pas de toute façon pour les prochaines, je pense. Mais tu sais, éventuellement, un jour peut-être, tu sais, j'ai 38 ans, tu sais, la politique, ouais, ça passe.
T'es encore jeune, là.
Exactement.
Tu sais, moi, dans mon idée, là, c'était de me rendre dans les plus hautes études jusqu'à 30 ans, puis après ça, faire mes preuves dans d'autres domaines. Mais tu sais, c'est comme, tu vois, les politiciens de nos jours, ils ont tous pas mal 50 ans, là, puis tu sais, c'est comme...
Mais ça va avec l'expérience de vie, tu sais. Il y a des gens là-dedans qui se sont rendus multimillionnaires avec des business, des ci, des ça. Puis ensuite, ils décident d'aller en politique parce qu'ils sont pratiquement indépendants de fortune. Tu sais, même Régis Labeaume, tout ça, c'est des gens qui ont réussi à se bâtir un empire, si on peut dire, là, financier. Puis ensuite, ils ont décidé de passer en politique. Mm-hmm. Moi, pour mon cas, ce ne serait pas vraiment ça. Mais quand même, tu sais, je pense que je suis en train de me faire un nom. J'essaie d'être la meilleure personne possible avec mon entourage. Puis éventuellement, on verra pour qu'est-ce qui est dans la politique.
Malgré que récemment, tu sais, on voit de plus en plus de jeunes... T'sais, politiciens arrivés dans le décor. Je pense à l'acolyte de François Legault ou juste Gabriel Nadeau-Dubois qui sont très jeunes. Ils sont tous jeunes et capables de faire. Il manque un peu de vécu.
Ouais,
il en manque un peu, puis ils vont apprendre de leurs erreurs, mais après ça, c'est beau de voir qu'il y a une jeunesse qui veut être là, qui veut changer les choses.
C'est important, c'est ça. Ouais.
Sinon, je sais que, on passe d'un sujet à l'autre, là, mais je sais que t'aimes... c'est quoi ton style de musique? T'aimes le rap?
Ouais, du hip-hop beaucoup, là. Ouais.
C'est quoi ton plus gros... ton artiste préféré, là?
Mon artiste préféré... Ben, je te dirais que mon groupe préféré, c'est Wu-Tang Clan.
Wu-Tang Clan? Ouais, non, je connais pas.
Tu connais pas ça? Ça a été vraiment très fort à partir de 1996. Même 1993, ils ont sorti un album, 36 Chamber. Puis après ça, ils ont sorti... un autre album quelques temps plus tard, début 2000, peut-être même pas 2000, puis ça a été un groupe qui était vraiment marquant pour moi toute mon adolescence. Puis sinon, j'écoute aujourd'hui un peu des nouveautés, mais je suis resté beaucoup dans le old school, puis j'écoute plus justement de qu'est-ce que j'écoutais adolescent. J'ai commencé à écouter ça beaucoup.
Puis je sais que t'écoutes du rap québécois, t'aimes ça le rap, Ken?
Rap québécois, j'écoute ça un petit peu comme ça, mais tu sais, j'étais plus encore là de la génération sans pression. Ouais. Tu sais, dans le temps, il y avait Dommatic, je sais même pas si c'était déjà
ça.
Maintenant, je sais qu'il y a Soulja qui est très fort. Justement, Mariam, que je parlais tantôt, elle a fait une tune avec Soulja.
Okay.
Sinon, après, il y a À la Claire, justement, avec mon ami Claude Bégin.
Ouais.
Puis Eman, que eux autres, dans le temps, étaient acrophones, qui sont des amis. Même Karim Ouellet aussi, c'est un de mes amis.
Moi, ça m'intrigue. Puis je pense que je t'en ai déjà demandé, mais je me souviens plus. Comment tu t'es fait ami avec... Claude Bégin, Iman, puis Karim Ouellet.
Ben, c'est qu'à Québec, dans le temps, on n'était pas beaucoup de blacks, puis tu sais, le hip-hop était déjà très présent dans nos vies respectives. Puis moi, mon cousin qui s'appelait Vincent Bouffard avait un groupe de musique qui s'appelait Personne. Puis il faisait des shows un peu partout, puis comme ça, lui, il chantait sur les mêmes shows qu'eux autres, parce qu'il faisait toute une partie, les deux, trois tunes, après c'était l'autre. Puis c'est comme ça que je suis venu à connaître. Il y avait aussi Limoilou Stars avec Webstar. Il y avait les Sosies. En tout cas, El Nino. C'est plein de gars que je connais. Shudi. Donc, des gars que j'ai connus très bien. Puis c'est ça. Donc, je suis devenu ami avec tous ces gens-là, comme ça, dans différentes soirées, là.
Puis ça fait que t'as quand même un bon background de... Tu connais quand même beaucoup de monde connu.
Quand même. Mais pour vrai, oui, parce que justement, puis je me rends compte que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est tout le temps à une personne de connaître comme une grande vedette. Là. Puis c'est ça, mais regarde, suis venu que à connaître, même des fois, je me rends compte, tu sais, Étienne Boulay, je te donne un exemple. Ouais. Étienne Boulay, tout le monde connaît Étienne Boulay aujourd'hui. Ouais. Mais dans le temps, tu sais, il jouait au foot, puis, tu sais, moi, je le connaissais comme ça. Vu que je boxais professionnel, je le voyais souvent dans des soirées à Cage au Sport ou quelque chose, parce que lui, il représentait les Alouettes. Puis là, on parlait comme ça, puis après ça, ben là, lui, sa problématique, puis tout ça, puis il s'en est sorti. Mais moi, je me suis beaucoup identifié à lui parce que moi aussi, j'ai une problématique après ma carrière de boxe. Moi, j'ai eu des problèmes de, justement, boisson, drogue, quand même, toxicomanie. Fait que en lien avec le fait de prendre ma retraite, puis on dirait que j'avais plus rien à quoi m'accrocher. Puis je cherchais beaucoup le « high », tu sais, d'aller chercher comme encore les émotions, puis j'étais émotif. Fait que... Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, Étienne, il m'a aidé aussi à travers. On s'écrivait, puis il m'a aidé beaucoup. Puis justement, les personnes connues, ben il y a d'autres personnes qui ont vu, j'ai vu leur histoire ou que je me suis associé. Puis en voyant eux autres, quand ils voient justement que tu t'as fait du sport pro, que tu as fait quelque chose, ben c'est comme plus facile, on dirait, de...
Ouais, d'être relié, puis ouais, de exactement faire comme ça. Je te comprends.
Ouais, exact.
C'est bon, c'est bon. Ben, je pense que ça va déjà être pas mal la fin.
Pas le problème.
Ça fait pas mal. Ça fait 50 minutes déjà.
Comme ça, ça
passe vraiment vite. Puis c'est fou, genre. Je trouve ça vraiment intéressant. La personne que t'es, puis que t'espères devenir. Parce que t'es, t'sais, t'as 38. Mais c'est fou que t'approches la quarantaine, puis t'as encore des projets.
Ouais,
c'est des gros projets à venir. Là.
Des très gros projets. On n'a pas parlé, mais. Aussi, vu que ma famille est en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré toute ma famille à l'âge de 16 ans pour la première fois en Afrique. Donc, puis je suis resté proche. Puis aujourd'hui, avec les WhatsApp, tout ça, je suis capable. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon père en vidéo. Tu comprends?
Mais ton père, il est parti.
Il est en Côte d'Ivoire. Il est parti, j'étais tout petit.
OK. Puis c'était quoi les intentions? Pourquoi il était parti?
Il est parti, je pense, c'est une différence de mentalité entre lui et ma mère. Puis lui, ma mère était censée d'aller partir là-bas, de toute façon, pour vivre avec mon père. On était censé déménager là. Finalement, vu qu'ils se sont séparés et divorcés, finalement, ça n'a jamais eu lieu. Sauf parce qu'ils ont été mariés. Là.
Puis c'est quand t'as repris contact avec ton père?
J'ai repris contact. Moi, je parlais à l'occasion, des fois. Il appelait ma mère, puis il voulait me parler. Puis ça a été vraiment à 16 ans encore, là, dans le même moment que la boxe, puis tout ça. Puis que j'étais en gros remaniement. Ben, remaniement dans le sens mental, là, de pouvoir justement trouver mon identité. Puis c'était important pour moi de connaître c'était qui ma famille, c'était qui mes oncles là-bas, c'était qui mes cousins, mes cousines. Puis de où je venais, mes racines, genre de pourquoi que j'étais plus foncé, un peu plus bronzé que les autres.
Ouais.
Fait que ça a été extrêmement bénéfique parce que j'ai arrêté de me chercher. Tu sais, j'étais plus en paix avec moi-même puis en sachant de où je venais. Puis j'étais content de découvrir tout ça.
Là. Ça fait que là, ton père, il est encore en Côte d'Ivoire.
Toujours.
Puis t'as de la famille là-bas d'abord? Ben, t'as de la famille à ton père?
Ouais, la famille paternelle toute là-bas pratiquement.
Okay.
Ou en France aussi beaucoup.
Ah ouais?
Ouais.
Puis fait que ça veut dire que tu comptes aller les voir bientôt?
Ouais, j'aimerais ça en juin.
Fait que ce serait la première fois que tu rencontres ton père?
Non, je l'ai rencontré à 16 ans.
OK.
Non, je suis allé en Côte d'Ivoire
à
16 ans.
OK, allé en Côte d'Ivoire.
Puis je suis retourné en 18 ans. Je suis allé là 2 ans. Mais là, j'aimerais ça aussi avoir des projets là-bas de... Peut-être au niveau de la boxe, essayer de partir peut-être une petite école de boxe là-bas ou quelque chose que j'irais peut-être passer 3 mois par année là. Je reviendrai ici. Mais tout dépendamment, parce que là, ça commence à faire beaucoup de projets avec la politique, ces affaires-là. Mais tu sais, je suis pas fermé à rien, honnêtement. Puis on a juste une vie à vivre, puis aussi bien en profiter. Puis tu sais, c'est cliché de dire ça. T'entends plein d'affaires. Tu vois des quotes sur Internet, puis sur Facebook, puis tout le monde essaie, tu sais, d'aller chercher son jardin du bonheur, tout le monde. Mais tu sais, sauf que ça reste que c'est ça quand même. Tu sais, moi, j'ai perdu mon meilleur chum qui est décédé après un combat de boxe, David Whittem. Ça fait 2 ans. Puis tu sais, je me dis, tu sais, la vie, tu sais, il faut profiter de la vie parce qu'elle a une date d'expiration. On sait jamais quand est-ce que, tu sais, on peut partir d'ici aujourd'hui. Puis tu sais, je sais, j'espère que ça arrivera pas, mais puis que crime, c'était la dernière fois que je voulais parler ou que je faisais une entrevue. Fait que tu sais, il faut profiter de la vie. Ça veut pas dire de faire le cave, puis de faire le fou tout le temps, puis de faire le party, puis la boisson. Non, c'est pas ça. C'est juste d'être bien, d'être en paix, de chaque jour, tu sais, dire bonjour, être heureux, puis tu sais, que les gens, au moins, la journée où tu vas décéder, qu'est-ce que tu vas laisser, ton héritage, mais c'est la meilleure que tu étais comme individu. Mm-hmm.
Puis je trouve ça nice de ta personne, parce que tu es quelqu'un de vraiment positif. Tu es quelqu'un là, qui tout le temps avec le sourire, tout le temps en train de rire, tout le temps en train de t'amuser avec tout le monde. Puis je trouve ça le fun parce que ça met une ambiance. Tu sais,
c'est important.
Ça change de la routine. Puis quand on te voit, on est comme ah, c'est Éric Martel, c'est nice, ça. C'est Bao. On a du fun quand on te voit, puis je trouve ça le fun. T'sais, moi, ça me donne tant le sourire là, quand je te vois.
Ouais, je trouve ça important. Puis même si quelqu'un rit, je me dis pas « Ah, il est en train de rire de moi. » Au contraire, je me dis « Il rit avec moi, puis je suis content.
Ouais. »
Tu sais, parce que des fois, il y a du monde qui devient un peu paranoïaque.
Exact.
Puis quand je ris pas de la personne. Je veux rire avec elle. Tu sais, puis c'est justement ça. Puis tranquillement, tu sais, ben là, quand tu me connais, tu le sais, tu le vois. Mais tu sais, moi, j'ai pas peur du ridicule. Mm-hmm. Tu sais, oui, OK, je suis un grand gars, costaud, ta, tu sais, je suis capable de le voir, tu sais, je suis pas fou. Sauf qu'en même temps, ça veut pas dire pour autant d'avoir l'air d'un tough puis d'avoir l'air d'un, tu sais, d'un gars qui hey, moi, j'étais un tough, non, j'étais un gros gars. Non, tu sais, il faut que tu sois capable de rire. Puis au contraire, ça amène encore plus les gens à être, hey, wow, tu sais, crème, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Puis tout
mais
ça.
Ben, c'est drôle parce que la première fois que je t'ai vu, tu sais, dans les premières fois que je t'ai vu, je m'attendais pas à ça non plus. T'es un grand galard, t'es quelqu'un assez d'imposant. Puis personne s'attend à voir quelqu'un comme ça ressurgir de toi. Là, c'est vraiment nice. Puis je trouve ça le fun de voir que tu te suis pas. On doit pas se fier aux apparences. Puis que t'es quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, puis qui est capable de faire des affaires, puis t'es capable d'être drôle, puis d'être le fun. T'sais.
C'est important.
Ouais. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps et d'être venu jaser avec moi.
Ça fait plaisir.
C'est vraiment le fun, puis j'apprécie beaucoup ça. Fait que c'est ça. Là, cet épisode-là, il va être diffusé sur SoundCloud, sur Spotify, sur YouTube même. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez le partager partout, que vous allez faire le plus de promotion. Ça, c'est vraiment le fun. T'es là, en ce moment, j'ai comme des écoutes qui varient entre 100 et 200. Fait que j'espère que vous allez taper enfin le 300, ce serait le fun.
Let's
là,
go,
enfin
let's go. 300. On y va pour le 300.
On y va, fait que ce serait vraiment le fun. Puis je vous souhaite écoute, une bonne journée. Puis pour finir, j'aimerais remercier encore à MM17 qui me passe ses tunes. J'aimerais encore remercier Éric Martel pour son temps. Puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure que vous allez l'écouter. Puis ciao, bye!
Yes!